Les podcasts de Radio Vatican.
Le pacte entre l'Union européenne et la Turquie pour stopper le flux migratoire a tout juste un an. Depuis le 20 mars 2016, date de sa mise en application, les arrivées sur les îles grecques sont passées de plusieurs milliers à quelques dizaines par jour. Mais en un an, seuls 851 exilés, considérés comme des migrants économiques ou ayant renoncé à l'asile, ont été renvoyés des îles grecques. Les expulsions sont suspendues à une décision du Conseil d'État grec qui doit dire dans les prochaines semaines si la Turquie est un pays assez sûr pour les accueillir. Or, puisque dans le même temps, la route des Balkans vers l'Europe reste fermée, 45 à 60 000 migrants restent bloqués en Grèce dans l'incertitude. Ils sont majoritairement enfermés dans des camps dont les organisations humanitaires dénoncent les conditions de détention déplorables et leurs conséquences psychologiques. Le père Maurice Joyeux, directeur du service jésuite des réfugiés en Grèce, revient sur cette situation alarmante.
On peut dire que le traité Europe-Turquie a eu un effet immédiat. Je dirais du jour au lendemain, sinon à deux jours près, l'arrêt des milliers de gens qui continuaient d'arriver. Au même moment, malheureusement, la Hongrie, la Bulgarie, la Macédoine, les frontières se sont bloquées de plus en plus. Et donc, il y a une stagnation importante dans les camps de détention. Ce ne sont plus des camps de rétention, mais des camps de détention, comme celui de Moria, où le pape est venu. Une surpopulation importante, pas loin de 3000 personnes au camp de Moria, dans des situations physiques, morales, situations de marécage, je dirais, et de grande souffrance, avec une perspective du retour vers la Turquie ou vers le pays d'origine, de plus en plus évidente pour les gens qui sont arrivés, en particulier après le 18-20 mars. Il y a une accumulation dans les camps, et une détérioration des conditions de vie, même s'il y a des efforts réels du HCR d'améliorer la transformation des tentes en containers, par exemple. Mais dans certaines îles comme Kos, la situation est plus dramatique encore qu'à Lesbos. Et aussi, l'opinion publique grecque insulaire est devenue beaucoup moins accueillante et plus policière, je dirais, avec aussi quelques manipulations de l'extrême droite grecque qui montent dans le pays de toute façon.
Donc il y a cette surpopulation. En un an, est-ce qu'il y a eu des évolutions concrètes, une amélioration des conditions de vie? Vous en avez un petit peu parlé, est-ce que vous pourriez développer? Ou est-ce que justement la situation pourrit, on pourrait dire?
Pour moi, c'est pour ça que j'ai employé le mot marécage. La situation est davantage pourrie qu'autre chose, surtout sur les îles. L'effort qui a été fait, c'est un effort d'évacuation de certains ou de laisser passer pour aller vers le continent. Mais d'abord, une fois à Athènes, la situation ne s'améliore pas pour les gens, parce que les camps refusent souvent de loger les personnes, les camps sont pleins, Athènes et autour, les squats se sont répandus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'avenir, donc ils sont dans une phase souvent de déprime ou de consentement à rester, demander l'asile politique. Nous avons 60 réfugiés dans nos deux maisons d'accueil de JRS à Athènes. Je peux vous dire que c'est très difficile de les accompagner, de leur donner un avenir, de leur faire croire de façon juste à des possibles, même en Grèce. Et donc, on partage leur identité en suspension.
Médecins sans frontières parle d'une augmentation des taux de suicide. Vous avez évoqué aussi ces questions de déprime.
Oui, tout à fait. De crise profonde du sens de leur départ et de leur orientation dans la vie. Ils ont besoin d'être reconnus et d'être entendus. Ils le sont très peu. L'essentiel de ce que nous faisons, c'est de la compassion et de l'écoute, et puis les inviter à une forme de proactivité pour éventuellement trouver un petit travail, une reconnaissance déjà par nous, ONG, quitte à leur donner aussi ce qu'on appelle des incentives ou des indemnités qui reconnaît le petit travail qu'ils vont faire de service de cuisine, de nettoyage de la maison, ou de gardiennage, ou de couture, ou de donner des leçons d'ordinateur à d'autres amis en langue arabe ou en langue afghane ou en langue kurde. C'est un appel à davantage de confiance de la part du gouvernement grec. Ne pas soupçonner, mais davantage ouvrir les possibilités de travail dans les camps, dans les squats et auprès des grands nombres qui ont besoin que nous allions vers eux et que l'idéologie ne nous barre pas la route d'une action et humanitaire et fraternitaire.
Et justement, ça pose la question de la coordination, puisque ça implique à la fois les ONG et puis les autorités grecques et européennes. Où en est-on de cette coordination?
C'est difficile de répondre. Je crois que, par exemple, le Haut Commissariat aux réfugiés est passé d'une dizaine de personnes en 2015 à 450 personnes. Maintenant, on est en phase de décroissance, parce que ce qu'on annonce, c'est que 20 à 30 000 personnes dans l'année, à peu près la moitié des 60 000 que l'on estime bloqués dans le pays devraient, au bout de l'année 2017, être partis vers l'Europe. Personnellement, je n'y crois pas. Si les pays européens acceptent, la France par exemple, de davantage accélérer la relocalisation, en rapport avec son opinion publique et avec la générosité qui est réelle de la société civile, et en l'appelant, pas seulement l'Église d'ailleurs, ou les réseaux chrétiens, alors on pourra peut-être parvenir à ce chiffre de relocalisation et d'allègement de la charge pour la Grèce. Mais je crains beaucoup qu'à cause des élections, à cause de l'état d'urgence en France, à cause des peurs, de certains échecs d'arriver dans les relocalisations, comme par exemple au Portugal, il y a eu des succès, mais il y a eu aussi des échecs, que ce soit difficile.
Un autre point par rapport aux moyens d'action, il y a la situation justement économique de la Grèce aussi qui est difficile. Oui. Concernant l'Église, l'archevêque catholique d'Athènes a expliqué que la conférence épiscopale elle-même était en difficulté pour ses besoins pastoraux, que la Caritas n'avait plus de fonds. Est-ce que ça impacte votre travail ?
Oui, on s'inquiète des fonds parce qu'on sent que la Grèce est marginalisée, qu'on en parle moins, qu'on pense que ça y est, ça s'est résolu, et puis que les grandes institutions ou autres sont tournées vers d'autres soucis, d'ordre politique, électoral ou autre. Donc ça joue beaucoup. Il y a une inquiétude chez nous. Et la police et l'armée sont davantage appelés plutôt que les ONG maintenant pour mater des mouvements de prise de conscience ou des désirs de reconnaissance de la part des réfugiés ou arrêter la prise en otage par certains courants anarchistes des réfugiés, parce que c'est aussi le risque, c'est que les réfugiés deviennent otages des débats idéologiques des Européens, que l'aide très concrète des repas de midi et du soir, de l'accès à la santé, de l'accès à l'éducation des enfants qui sont très nombreux, passe complètement inaperçu, alors que tout ça, ça a un coût, ça demande des ressources humaines en termes de maisons, en termes de provisions, d'alimentation, en termes de médicaments, de disponibilité de certains services de santé. Et comme tout ça était déjà un peu en crise en Grèce, je ne suis pas étonné que les évêques et Caritas Grèce continuent de faire appel. Nous-mêmes, JRS en Grèce, JRS Elada, heureusement qu'on est soutenu par le JRS Europe, on est soucieux.
On se souvient que l'an dernier, en avril, le pape François était venu sur Lesbos. Quel a été l'impact de cette venue ?
Je crois que c'était très important que cette venue, qui balise le chemin d'attention du pape, et là c'était avec le patriarche Bartholoméos et puis l'archevêque orthodoxe d'Athènes et de Grèce. C'est un signe fort d'unité. Lorsque on se penche hors idéologie, je dirais comme aumônier de prison ou de camp de rétention, de camp de souffrances humaines, ensemble vers la société marginalisée et les victimes de la guerre. Parce qu'au fond, c'est ça le geste qu'a posé à nouveau le pape François en venant. Il n'a pas tellement tenu de discours, il a surtout voulu être avec ses confrères, je dirais, responsables orthodoxes, auprès des réfugiés et nous inviter les uns et les autres à lâcher les peurs et les idéologies et à oser la rencontre et même la prise en charge, comme ils l'ont fait avec l'aide de la communauté San Egidio, de telle ou telle famille. C'est des petits gestes, mais ils ont un grand impact sur le moral de ceux qui travaillent auprès des réfugiés et sur les églises et sur notre vocation à tous, à ne pas oublier et à veiller à intégrer des gens qui sont en souffrance, quoi. La guerre n'est pas qu'au Moyen-Orient. La guerre, elle s'invite chez nous, dans les victimes.
Et comment cette visite œcuménique pourrait-elle porter du fruit aujourd'hui ?
Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille plus avant dans le travail œcuménique pour les églises, faire avec les anglicans, les protestants, les orthodoxes, les catholiques, et pourquoi pas aussi l'ouverture à d'autres organismes, d'autres inspirés par d'autres religions, vers les réfugiés et auprès d'eux. Je pense qu'on a, dans le contexte de la crise de l'islam, on a non pas des discours à tenir, mais une posture vraiment chrétienne dans l'esprit du bon samaritain et dans la durée à assumer. Avec joie, parce que pour moi, il y a une opportunité de grâce à accueillir ces gens, en reconnaître la grandeur de courage et de dignité dans la liberté et à les accompagner. Ça nous ressource nous-mêmes dans notre propre foi, dans la variété de ces fois, mais dans l'essentiel qui est l'attention comme le samaritain bon qui n'était ni juif ni chrétien vis-à-vis de l'humanité en souffrance.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.